Jeudi 8 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord au Vatican, le successeur du pape François vient d'être désigné. Annie Guillemette, les cardinaux ont élu un des leurs pour devenir le nouveau chef de l'Église.
Effectivement, c'est au quatrième tour du vote qui a été tenu sur l'heure du midi à notre heure. Il était 18h08 à Rome qu'un des 133 cardinaux électeurs a obtenu, on le rappelle, les deux tiers des voix. Un événement qui apporte bien sûr une grande frénésie du côté de Rome et un peu partout. La Québécoise Nathalie Roquet vit là-bas. Elle était sur nos ondes un peu plus tôt. On l'écoute.
Les gens dans la rue, ils arrêtaient les autos, les gens klaxonnaient, toutes les cloches des églises ont commencé à sonner. C'est vraiment, c'est émotionnel.
Le pape désigné est le 267e de l'histoire. Il a donc répondu à deux grandes questions de la part du plus ancien de ses collègues. La première à propos de l'acceptation de son élection. La seconde à propos du nom qu'il choisit comme pape. Par la suite, donc, le nouveau pape va enfiler les vêtements blancs qui sont bien sûr significatifs pour son nouveau rang dans l'Église avant une cérémonie où les cardinaux doivent lui prêter allégeance. On le verra apparaître d'une minute à l'autre au balcon de la place Saint-Pierre pour la première bénédiction. Il devrait être présenté avec la grande annonce Habemus Papam. Bien sûr, c'est en latin. Ça veut dire « Nous avons un nouveau pape ».
Merci, Annie. Maintenant, un accord commercial a été conclu aujourd'hui entre les États-Unis et le Royaume-Uni, le premier du genre depuis le début de la guerre tarifaire initiée par Donald Trump. Cette entente de principe stipule que le Royaume-Uni va ouvrir son marché à certains produits américains, notamment des produits agricoles. Une entente sur les tarifs douaniers visant l'acier et l'aluminium serait aussi intervenue et le Royaume-Uni pourra exporter 100 000 voitures par année aux États-Unis en se voyant imposer des tarifs de 10 % plutôt que de 25. Donald Trump affirme qu'il s'agit d'un excellent accord pour les deux pays.
I think that it's a great deal for both parties. It opens up a tremendous market for us and it works out very well.
Et le Royaume-Uni pourra exporter 100 000 voitures par année aux États-Unis en se voyant imposer des tarifs de 10 % plutôt que 25. Et comme le premier ministre François Legault l'avait prédit, le projet de loi sur la rémunération des médecins fait déjà des vagues. Le gouvernement caquiste veut lier la rémunération des médecins à des indicateurs de performance dans l'objectif qu'ils prennent en charge davantage de patients. Ce projet de loi est très mal reçu par les médecins, mais aussi par l'opposition à Québec. On écoute le député libéral André Fortin en point de presse ce matin après le dépôt de la pièce législative.
Attention avec ce que vous mettez de l'avant, parce qu'aujourd'hui, là, on est sur un fil de fer. Il y a 25 % des médecins qui ont 60 ans et plus, des médecins de famille qui ont 60 ans et plus. Ces gens-là, là, s'ils le veulent, ils peuvent prendre leur retraite.
Devant l'augmentation des coûts de construction des maisons des aînés, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, prévient qu'elle n'hésitera pas à stopper des projets en cours de planification. En mêlée de presse ce matin, Mme Bélanger s'est dite extrêmement préoccupée par les coûts de construction de ces projets. Ce matin, la presse parle d'un établissement à Joliette qui coûtera près de 1,8 million de dollars par chambre. On écoute à ce sujet la ministre Bélanger.
Je n'hésiterai pas à arrêter des projets qui seraient en planification à ce moment-ci. Je l'ai d'ailleurs fait l'été passé avec les Îles-de-la-Madeleine. J'ai arrêté le projet de MDA des Îles-de-la-Madeleine. Je viens de mettre sur pause la maison des aînés de Palmarol en Abitibi. Et puis, s'il faut le faire, on le fera.
Et la population du Québec a augmenté de 155 300 personnes en 2024, un accroissement de 1,7 %, l'une des plus importantes hausses jamais enregistrées au Québec. À ce rythme, le Québec pourrait franchir le seuil de 10 millions d'habitants vers 2054. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
T'as envie de vivre l'envers du décor de la Coupe Memorial 2025 à Rimouski? Deviens bénévole. Nous recherchons des personnes dynamiques pour occuper des fonctions logistiques, services à la clientèle, transport et sécurité. Une chance unique de vibrer au rythme du plus important tournoi de hockey junior au Canada du 22 mai au 1er juin. Pour t'inscrire, visite le site lch.ca et clique sur le bouton bénévole de la section Coupe Memorial 2025.
FM 93, Rimouski.
Vous allez en entendre parler.
Si ça se passe dans la région, si c'est important, si c'est intéressant, vous allez en entendre parler. FM 93, Rimouski.
Débat, autre vue. Jusqu'à 15h, vous écoutez La Commission. La Commission. Voici Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
13h05, Luc, le pape a été élu à 18h08, il est 19h04 à la Cité du Vatican. Généralement, ça prend une heure à peu près entre le moment où les cardinaux ont fait leur choix et que la fumée blanche soit sortie de la cheminée. Donc, c'est une question de minutes. D'ailleurs, aussitôt qu'on connaîtra le nom du nouveau pape, nous irons à la rencontre joindre Bernard Bédarida, qui est journaliste, qui est à la place Saint-Pierre. On va aussi parler à Alain Crevier. Alors, tu vois, parce qu'ils auront beaucoup de choses à nous dire, non seulement sur l'ambiance qui règne. Vous avez déjà une petite idée parce qu'on vous a fait entendre... on voit le cardinal Ouellette, là, qui est à l'extérieur, qui est à Place Saint-Pierre actuellement. Il y a des Québécois qui sont là. En fait, il y a des gens de toutes les de plusieurs pays, à peu près de toutes les nationalités qui sont sur place.
C'est drôle que le cardinal Ouellette se soit mêlé à la foule comme
oui,
ça.
Oui, hein? Ben c'est très bien.
Mais oui, mais oui.
C'est très, très bien parce qu'il attend lui aussi impatiemment ce moment tant attendu. Alors, j'entendais tout à l'heure aux nouvelles notre collègue Annie Guillemette parler de... Les cardinaux ont pris 4 scrutins pour élire le nouveau pape. Alors, 2 jours et 4 scrutins. La dernière fois qu'on a établi un score comme celui-là, c'est en 2005 pour l'élection de Benoît XVI et en 1978 pour l'élection de Jean-Paul Ier. Et là, il y a un auditeur qui vient de nous écrire. Il dit « La bourse monte sur un sale temps. » C'est Ben qui nous écrit. Je sais pas si c'est à cause du pape ou du clown aux États-Unis.
Mais c'est le clown. C'est parce qu'il a signé une entente avec le Royaume-Uni. Il y en a une qui est en préparation avec la Suisse. Il y en a une qui est en préparation avec la Chine. Il y a celle qu'on sent venir avec le Canada aussi. Hein, parce oui. que la rencontre avec entre Carney et Trump s'est très, très bien passée. Et toutes ces ententes-là permettent à Trump, non pas de résoudre le problème qu'il a créé, mais de mettre une couverte sur la casserole.
Ouais, mais c'est la première entente depuis qu'il est président.
Ouais.
Là, on parle d'une entente totale, mais avec Trump, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'enflure verbale, là, il y a énormément de mots là, mais c'est une entente qui permet par exemple à des produits agricoles américains d'être vendus en sol britannique. Les Britanniques vont pouvoir vendre 100 000 voitures en sol américain avec des droits de douane de 10%. L'acier britannique ne fera plus l'objet de droits de douane. Alors, c'est pour ça que le marché réagit bien. Tu as raison, Luc, cette entente envoie un signal positif et la Maison-Blanche aussi envoie des signaux au marché en disant il y a d'autres ententes de ce type qu'on va réussir à signer. Mais c'est positif.
Ce ne sont pas du tout les objectifs que Trump s'était fixés quand il a lancé cette ronde de tarifs-là. Hein. On se rappelle qu'il y avait 2 grands objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de rapatrier la production industrielle aux États-Unis. Le deuxième objectif, c'était d'accumuler des milliards de dollars, voire 1 trilliard de dollars pour pouvoir baisser les impôts des Américains.
Ouais.
Ni un ni l'autre de ces deux grands objectifs ne va être atteint.
On s'entend.
C'est comme si tu faisais une partie de football, puis à la fin... Tu dis que tu as gagné, mais pas parce que tu as transporté le ballon plus longtemps que l'autre. Non, tu as fait preuve de plus d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il change constamment la règle pour dire qu'est-ce que c'est que de gagner. Là, il a gagné quoi? Il a sans doute rien gagné ou très peu gagné. Peut-être, oui, quelques centaines de milliards de dollars pour les tarifs qui vont rapporter dans les coffres américains, mais pas les trillions qu'ils recherchaient.
Non.
Et certainement pas une délocalisation de la production. C'est pas vrai qu'Apple, demain matin, va venir faire ses iPhones aux États-Unis. C'est impossible.
Ben non, Apple...
Ça n'arrivera jamais. Nike, c'est pareil.
Excuse-moi, Luc, Apple va les faire en Inde.
En Inde.
Ah, ça, c'est un exemple très concret, mais il va quand même réussir à convaincre certaines entreprises de s'établir aux États-Unis.
Quelques-unes, c'est déjà commencé, puis ça va surtout convaincre sa base d'électeurs qu'il a gagné. C'est ça qui est important pour lui.
Exactement. Ouais. Alors, cet accord total et complet a été confirmé ce matin. D'ailleurs, Keith Starmer, le premier ministre britannique, n'était pas sur place. Ils se sont parlé par téléphone. Alors, tu vois, les équipes de négociation ont travaillé bien fort pour que cette entente arrive aujourd'hui. Je le rappelle, 8 mai 2025, où on célèbre le 80e anniversaire de la fin de la capitulation d'Allemagne, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour Donald Trump, il y a un signe du destin, là. Il y a un signe du destin. Alors voilà, l'identité du pape, oui, on l'attend toujours. Des cris de joie sur la place Saint-Pierre. Les Romains là, affluent vers la place Saint-Pierre. Donc, on va vous révéler son identité là, à partir du moment où on la connaîtra, parce qu'on est tous en attente de cette information fort pertinente, intéressante. Une information qui nous donnera une idée de vers quoi l'Église catholique tendra au cours des prochains mois, des prochaines années. Les maisons des années, on vous en parle. parle, 1,8 million la porte pour la Maison des aînés de Sainte-Élisabeth. Ce matin, on lisait le texte de Maxime Bergeron, sa chronique dans la presse, 1,8 million la porte, j'hallucine ou quoi? C'est tellement un article bien, ben c'est bien fait parce qu'on comprend, il explique là, en détail les coûts de cette maison, de cette future maison à Sainte-Élisabeth. C'est un village situé près de Joliette, dans Lanaudière. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a écrit un peu plus tôt, Luc, qui vit à Sainte-Élisabeth, puis il dit ça n'a aucun bon sens, les coûts de cette maison. Il n'en revient pas. C'est Christian, en fait. Et disons, parce qu'il dit, bon, c'est effectivement le bâtiment, un vieux couvent qui est effectivement classé patrimonial. Ils ont tout démoli. Ils ont gardé seulement deux murs de briques pour respecter la règle des monuments historiques. Mais finalement, après 3 ans de toile et de chauffage pour rien, ils ont tout défait au complet, refait la façade avec les vieilles briques. Alors ça aide pas
ça,
pour les départements.
C'est incroyable, parce que bâtiment-là, il y en a plusieurs, il y a le bâtiment des Sœurs de la Providence, par exemple, à Montréal, il y a l'Institut des Sourds, au Numuet, etc. Ils commencent par se demander si le bâtiment est aux normes. Pas s'il est solide, parce que souvent, il est très solide, contrairement à ce qu'on dit. Là. Ah, il était pas aux normes, ça veut pas dire qu'il est pas solide, ça. Ça veut dire que les rampes d'escalier sont trop basses, ça veut dire que le seuil des fenêtres est trop bas, c'est des choses comme celle-là. Et comme quand on investit dans ces bâtiments-là, on dit, ben, tant qu'à investir, on va s'assurer que ça soit pour les 50 prochaines années. Alors là, on se remet à remettre tout en cause. Sans considérer que ce bâtiment-là, il est debout depuis 100 ans.
Oui,
et des fois, 150 ans.
Oui,
et qu'il tient bien.
Oui.
C'est vraiment comme, OK, on enlève tout, on recommence. Je l'ai vu à plusieurs reprises, là, on garde très peu de choses, on détruit tout. Est-ce que c'est vraiment la manière de faire? Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à refaire tous nos bâtiments religieux,
mais non,
tous nos bâtiments patrimoniaux?
Mais non, ce n'est pas possible. On vous le disait un peu plus tôt, mars 2022, voilà, Caroline Proulx et Marguerite Blais font l'annonce de cette maison, l'étant au printemps 2025, c'est toujours pas complété. La ministre, ce matin, Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés, a été questionnée par les journalistes à l'Assemblée nationale, a dit, je n'hésiterai pas à arrêter des projets parce que elle est sans connaissance comme nous, là. Mais
oui.
Luc, sais-tu qui était le maître d'œuvre de ce projet?
Non.
La Société québécoise des infrastructures. Alors ça, c'est une société qui relève du ministre Jonathan Julien. La question qui tue, Luc, qu'a fait la Société québécoise des infrastructures?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on est dans l'amateurisme ou l'incompétence ici, là? Voyons donc, toi.
Pourtant, la même Société québécoise des infrastructures qui a imposé à la Grande Bibliothèque, par exemple, lorsqu'elle est en construction, de changer complètement son revêtement et sa façade parce que ils allaient dépasser les coûts. La même Société québécoise des infrastructures qui a imposé à l'UQAM d'être construite en briques plutôt qu'en pierre et qui a démoli tout le concept architectural parce que ça allait dépasser les coûts. Mais là, ils sont où?
Oui, absolument. Ils sont
où? Ce coup-là, sont où?
Ils sont où? Puis on ne pourra jamais construire à des coûts comme ceux-là. C'est complètement ridicule. On n'est pas une société riche à ce point pour construire des maisons des aînés. Dans ce cas-ci, la maison des aînés de Sainte-Élisabeth contient 42 chambres. Je comprends, Luc, que... Là, au moment où on se parle,
il apparaît
le pape
au balcon.
Fait son apparition au balcon.
On ne le reconnaît pas, bien entendu.
Oui.
On va voir certainement son nom à l'écran.
C'est Parolin, peut-être? Oui. Ah non, c'est derrière les rideaux. On va faire l'annonce du pape. Okay. Voilà, c'est ça. Alors, on va faire son annonce dans quelques instants. Et c'est très excitant.
Oui.
19h13, donc un peu plus d'une heure depuis que les cardinaux ont fait leur choix. On connaît. On connaîtra dans quelques secondes
le
nom du pape. Ouais. Là, on est là. On, notre réflexe, c'est de garder le silence alors qu'on... Ah, attendez.
Annuncio vobis gaudium magnum.
Gaudium magnum.
Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit, Leonem Decimum Quartum.
Avec nous, Bernard Bédarida. Alors, on l'appelle à l'instant, les journalistes, il est en direct de la place Saint-Pierre. Alors, ce nom a été connu, Luc, le nouveau pape, et ben voilà, puis c'était une apparition très, très brève, hein, de quelques secondes seulement. Les gens sont en
liesse. Les principaux journaux du monde n'ont pas encore traduit la nouvelle.
Oui, c'est le cardinal Robert Francis Prévost. Il est américain. Il est cardinal évêque d'Albano. Alors, il a 69 ans. C'est un pape américain. Ce sera...